Bonsoir à tous. On est très heureux de vous accueillir nombreux ce soir avec des têtes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc à chaque fois, ça fait un public qui se diversifie. On est vraiment très heureux d'un certain nombre de sœurs, de frères qu'on ne voit pas d'habitude. Espérons qu'il y ait quelques dominicains dans la salle.
Oui, oui.
Oui, il y en a. Ah, bon, je ne les ai pas encore vus. Voilà. Il y a toute une tradition, vous le savez, dans les couvents franciscains d'accueillir des frères dominicains au moment de la Saint-François. Ici, on est un peu après à Saint-François, mais pendant de très longues années, ici, puisque ici c'était la chapelle avant les années 70, eh bien, vers le 3 octobre, il y avait chaque fois un panégyrique, qui est un panégyrique de Saint-François, qui était prononcé par un dominicain. Et le 3 octobre 1948, c'était le père Marie-Dominique Chenu qui a prononcé un panégyrique de Saint-François. On sait quelque chose de ce panégyrique pour deux raisons. C'est que, d'abord, trois jours après, le panégyrique se trouvait in extenso, pratiquement, dans la croix. Et il y a aussi le fait qu'il y avait dans la salle un tertiaire un peu particulier, un tertiaire qui était nonce apostolique à l'époque à Paris, qui était Angelo Roncalli. Et Angelo Roncalli note dans ses... Vous savez, chaque soir, il notait quelque chose. Il écrit ceci à propos donc de ce qu'a dit le père Marie-Dominique Chenu. Il dit « Ce fut intéressant pour moi, mais inintelligible pour la plupart des auditeurs, tertiaire, hommes et femmes. » Alors, j'espère que ce soir, ça sera intelligible. Il y a peut-être le nonce apostolique parmi vous. Le problème, c'est que de fait, j'ai peur que maintenant, le nonce apostolique, actuellement en tout cas, il ne soit pas tertiaire franciscain. Il peut le devenir. Il peut le devenir parce que ça conduit loin, hein, a priori. Voilà, on est donc très heureux ce soir d'accueillir dans cette tradition franciscaine d'accueil des dominicains au moment de la Saint-François, le frère Guy Bedwell, qui est actuellement donc recteur de l'Université catholique de l'Ouest, qui a été pendant très longtemps professeur d'histoire de l'Église à l'Université de Fribourg, qui a écrit de nombreux ouvrages, à la fois des ouvrages scientifiques et des ouvrages à destination du grand public, parce que je crois que la transmission au grand public, c'est quelque chose d'important pour vous. On va citer peut-être pas tous vos ouvrages, mais peut-être telle ou telle orientation principale de vos travaux. D'abord, des travaux autour des humanistes et de leur lecture de la Bible. Hein. J'ai remarqué que nous avions dans notre bibliothèque votre livre « Lefèvre d'Étaples et l'intelligent des Écritures », et on s'est aperçu que ce livre provenait de la bibliothèque du père Dalmé, hein, du père Dalmé qui a été un grand dominicain qui est mort il y a quelques années, quelqu'un de assez extraordinaire. Et puis, autre grand domaine de vos activités, c'est tout le 19e siècle dominicain, et en particulier la figure de Lacordaire. J'imagine qu'on ne peut pas compter le nombre de textes, le nombre de paroles que vous avez prises à propos de Lacordaire. Vous avez édité la correspondance de Lacordaire. On a le premier volume dans notre bibliothèque, on n'a pas le second volume, donc si quelqu'un voulait nous l'offrir...
L'auteur ne peut pas.
L'auteur ne peut pas. Parce
l'auteur ne peut plus.
Voilà. Frère Guy-Marie Bedwell, Thomas Bedwell, un grand merci d'avoir accepté cette proposition qu'on vous a faite de lire, en tant que dominicain, ces sources franciscaines. Et maintenant, on est tous heureux et impatients de vous écouter. Merci.
Merci beaucoup. Ça fonctionne, oui. Frères et sœurs, j'ai intitulé cette conférence, qui évidemment s'appuiera beaucoup sur le totum, je l'ai appelée « Notre Père Saint-François et Notre Père Saint-Dominique », puisque c'est comme ça que, en tout cas chez nous, nous appelons les deux fondateurs des prêcheurs et des mineurs. Alors, puisque Pierre a évoqué cette belle coutume d'accueillir le jour de la Saint-François un dominicain pour qu'il parle de Saint-François et le jour de la Saint-Dominique pour qu'il parle un franciscain pour qu'il parle de Saint-Dominique, je dois expliquer d'abord, puisque comme Pierre l'a dit, j'étais très longtemps à Fribourg, une trentaine d'années, j'étais prieur du couvent. Je me suis dit, c'est évident que il faut que cette coutume se maintienne Et donc, j'ai invité la Père Capucin, que je connaissais très très bien, le Père Maceo Calos, donc, qui était un collaborateur du Père Love, qui a très très bien parlé de Saint-Dominique, c'était parfait, magnifique, mais je n'ai pas été invité à la Saint-François. Alors, je me suis tourné par les franciscains, qui sont venus, très 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 gentils, très bien parlé de Saint-Dominique, mais je n'ai pas été invité à la Saint-François. Alors, comme nous avons toutes les sortes de franciscains à Fribourg, je me suis tourné vers les cordeliers, les conventuels, Père Christophe, qui était prieur, qui est suisse allemand, qui a fait un magnifique panégyrique de Saint-Dominique en magnifique, mais je n'ai pas été invité à la Saint-Dominique. Alors, d'une part, il y a une explication, hein. Il y a une explication, je me suis dit, mais pourquoi ? Ben, c'est en fait que les Dominicains en Suisse, même à Fribourg, enfin surtout à Fribourg parce qu'ils n'y étaient pas, ont été supprimés à la Réforme. Ont été supprimés à la Réforme totalement. Et ils ne sont revenus que dans les... Enfin, à la fin du 19e siècle, international, il y a un couvent international, bon... Et puis, la province suisse n'est née que dans les années 60, 60 65, et donc les franciscains ne savaient pas qu'ils pouvaient nous inviter. Ils pouvaient nous inviter. Et en même temps, je crois que c'est ce soir que vous m'invitez. Voilà. Alors, ce que je voudrais faire ce soir assez simplement, hein, c'est de prendre cet admirable ouvrage. Il faut quand même le dire pour commencer. C'est une œuvre scientifique splendide, éditée évidemment, on peut quand même le dire pour commencer, par des éditions franciscaines, des éditions dominicaines. J'ai beaucoup utilisé dans le temps le De Bono Voreux. C'est un magnifique aussi ouvrage, mais c'est évidemment qu'il y a une progression scientifique manifeste, et pour le lecteur, c'est vraiment un instrument de premier plan. Alors, je vais commencer par une sorte de parallèle, et puis nous verrons ce que les textes franciscains disent de Saint-Dominique. On va un peu les croiser avec les textes dominicains. Et pour conclure, si vous voulez, je vais me lancer à mon tour dans ce parallèle obligé de notre Père Saint-François, de notre Père Saint-Dominique. Alors, ce parallèle, c'est depuis le départ, on va le voir, mais c'est le plus célèbre, et il est cité en partie évidemment pour Saint-François dans le Totum. C'est évidemment Dante qui le fait de manière splendide, un peu compliquée quand même, hein, c'est comme toute la Divine Comédie, il faut plus de notes que de textes. Et donc, mais évidemment, le génie de Dante, c'est d'avoir fait faire au chapitre 11 et 12 du Paradis l'éloge de Saint François par Saint Thomas d'Aquin et l'éloge de Saint Dominique par Saint Bonaventure. Donc, c'est, vous voyez, ce croisement que des siècles aussi de prêcheurs et de mineurs ont fait en s'accueillant les uns les autres. Et puis, à un certain moment de mes intérêts, comme Pierre l'a dit, puisque je m'arrête souvent sur l'accordaire, dans sa vie de Saint-Dominique, il y a le passage obligé de l'accordaire sur... Saint-François, sur le parallèle, dont je vous lis simplement un tout petit morceau, peut-être j'y reviendrai tout à l'heure. Et alors, lui, il prend l'accordaire dans sa vie de Saint-Dominique, donc 1839-40, au moment où il entre dans l'ordre dominicain en Italie, et il s'est très visualisé, c'est de l'histoire romantique, hein, mais c'est assez beau. Presque à la même époque où Dominique posait à Notre-Dame de Prouille, donc midi de la France, Carcassonne, Franjou. Au pied des Pyrénées, les fondements de son ordre, François jetait les fondements du sien à Notre-Dame des Anges, au pied des Apennins. Un sanctuaire antique de la bienheureuse Vierge Mère de Dieu avait été pour tous les deux l'humble et douce pierre angulaire de leur édifice. L'un et l'autre avaient commencé leur vie publique par un pèlerinage à Rome, l'un et l'autre y retournèrent pour solliciter du souverain pontife l'approbation de leurs deux ordres. Dominique comme François renversa sous la flexibilité austère de sa règle les hommes, les femmes et les gens du monde, faisant de trois ordres une seule puissance, combattant pour Jésus-Christ par toutes les armes de la nature et de la grâce. Donc, il y a dans ce passage pas mal d'éléments déjà de cette fameuse comparaison entre Saint François et Saint Dominique. Donc, Saint François et Saint Dominique se sont certainement rencontrés, ça va être l'objet de cette causerie. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le fameux embrassement, ils s'embrassent tous les deux fondateurs à Rome, sans doute, on va voir, qui se trouve par exemple à Florence, à la loggia Saint-Paul de Andrea della Robbia. Là, ils se rencontrent, ils ne s'embrassent pas, mais ils sont là tous les deux. Et puisque à Angers, j'habite chez les Carmes, j'ai trouvé quelque chose qui est assez joli quand même, et qui est la rencontre de Saint-François, du fondateur des prêcheurs, du fondateur des mineurs, et du refondateur, ou un des premiers Carmes, Saint-Ange de Jérusalem. Et à Brescia, il y a une très très jolie représentation des trois saints, puisqu'ils sont tous les trois saints, et nous voyons autour de la basilique du Latran, ce qui n'est pas quelque chose qui de mineur, parce qu'au sens il y a une sorte d'attirance et de polarisation autour de la basilique de Latran, on le verra. Saint-Dominique et Saint-Ange qui se tiennent autour de la basilique, la cathédrale du pape, accompagnée d'un autre carme sur le côté, et en bas, agenouillés devant Saint-Ange, Saint-François. Et Saint-François, donc, dans une attitude d'humilité et de prophétie, puisque la phylactère qui sort de sa bouche, si on peut dire, prédit à Saint-Ange sa mort comme martyr. Il va être assassiné par un hérétique. Donc, si vous voulez, le thème de la rencontre des fondateurs est quelque chose d'assez important, et là aussi, à Sainte-Sabine, dans la pièce chapelle que nous appelons chambre de Saint-Dominique, il y a une inscription qui commémore, sans donner de date, mais évidemment on peut probablement la situer entre 1215 et 1221, évidemment, entre Saint-François, Saint-Dominique et Saint-Ange. Voilà. Alors, j'ai dit en effet que ce que je voudrais traiter avec vous et avec les textes, c'est les rencontres. Les trois rencontres, peut-être. Trois, peut-être. De Saint-François et de Saint-Dominique. Il y a une inconnue. D'abord, c'est que Saint François comme Saint Dominique se sont rendus au concile de Latran, Latran IV, 1215. On le sait, ça a duré une vingtaine de jours. Moi, je suis persuadé qu'ils se sont rencontrés. Quand même pas énorme, hein, un concile médiéval, même s'il était très important. Dans la suite de, disons, dans sa réalité institutionnel et théologique, mais ça ne devait être quand même pas énormément de gens. Donc, mais très curieusement, il n'y a aucune trace, ni chez vous, ni chez nous, si je peux dire. Bien. Mais il y a quand même un épisode qui est très bien identifié, qui se situe entre 1216 et 1218. Alors, vous voyez, c'est le moment, c'est après le concile de Latran IV, où Saint François a attesté de la vitalité de sa fraternité, et où le pape Innocent III va demander à Saint-Dominique, mais aussi à d'autres ordres, de prendre une règle approuvée, de repartir chez eux, là je parle Saint-Dominique donc à Toulouse, et d'aménager les premières coutumes et leur manière de vivre à une règle attestée, qui sera la règle de Saint-Augustin, puis ensuite les constitutions. Et donc, Saint-Dominique est revenu en... Donc c'est 1216-1217, ce n'était plus Innocent III, c'était Honorius III, et là, il y a un épisode que je vais donc développer, et qui présuppose, c'est ça qui est quand même curieux, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Donc, mon hypothèse de la 34 tombe un petit peu si c'est un texte disons authentique. Authentique le texte l'est, mais est-ce que l'épisode est véridique, c'est une autre chose. Alors, je commence à travailler maintenant. Nous avons ce récit dans le témoignage d'un sermon de Federico Visconti que vous trouverez dans le Totum à la page 3099. Alors, Federico Visconti, la grande famille, était archevêque de Pise. Nous savons qu'il a entendu Saint François à Bologne en 1222, donc c'est vraiment un contemporain, mais il meurt en 1264, mais le sermon, qui est celui que je veux citer, est quelque chose de il est daté de 1257 sans doute. La Vierge, donc je cite ce texte 3099, la Vierge présenta au Christ en colère brandissant trois lances contre les péchés des hommes frère Dominique et frère François, en suppliant de leur donner sa bénédiction, donc c'est une vision de Saint Dominique, hein, en suppliant de leur donner sa bénédiction et de les envoyer pour le salut du genre humain, les bénissant, il les envoya. De passage à Rome, pour demander des privilèges pour son ordre, donc manifestement 1216 ou 1217, le bienheureux Dominique eut clairement cette vision. Il vit le bienheureux François que jamais il n'avait vu auparavant, si ce n'est dans cette vision nocturne qui était pareillement à la curie, Saint François, pour obtenir des privilèges pour son ordre. Le lendemain matin, venant à la curie dans le palais du Latran, il y rencontra le bienheureux François. L'appelant en secret, il lui raconta la vision qu'il avait vue cette nuit, alors tous deux, rendant grâce ensemble à Dieu, échangèrent un baiser en s'étreignant. Ils se promirent de s'aimer désormais et de s'entraîner dans le lien de la charité. Donc, c'est l'origine du baiser des deux fondateurs. Hein. Alors, il y a une autre occurrence, comme on dit, dans le Totum, qui est à la page 3000, et qui est une vision dans la vision d'Arnaud de Saran, mais c'est très tardif, hein, donc c'est milieu du XIVe siècle, c'est certainement une reprise de cet épisode, et très vraisemblablement ce texte de Visconti. Alors, très intéressant pour nous, c'est que nous avons l'équivalent dominicain. Nous avons l'équivalent dominicain dans les Vies des Frères de Géraud de Frachet. On disait Gérard, maintenant on dit Géraud. Le seul problème, mais je ne pense pas que ça entache de quoi que ce soit cet épisode particulier, c'est que c'était quand même tellement arrangé, tellement légendaire, pourtant 1260, hein, que le maître de l'ordre de l'époque a dit, écoutez, c'est très très bien, mais on va plutôt le réserver aux frères dominicains, que ça sorte pas trop, parce que, voilà, bon. Donc, une sorte d'authenticité, au milieu du XIIIe siècle, il a été un peu mis en doute, c'est un petit peu propre à mémématique. Mais, malgré tout, nous avons ce récit, pratiquement, donc, à la mode dominicaine, dans les Vies des Frères. Mais, intéressant quand même, c'est, ça ne veut pas dire que c'est absolument exact, mais Géraud de Frachet a le souci de dire comment cet épisode, ce récit lui est venu. Et ça, pour nous, c'est quand même aussi important. Un frère mineur, pieux et digne de foi, qui fut longtemps compagnon de saint François, a fait à plusieurs de nos frères le récit suivant, rapporté ensuite par l'un d'eux à maître Jourdain, du temps où saint Dominique était à Rome, et demandé à Dieu et au Seigneur Pape la confirmation de son ordre. Honorius III, 1216, sans doute. Une nuit, étant en prière selon sa coutume, il vit le Seigneur Jésus debout dans l'espace et brandissant trois lances contre le monde. La bienheureuse Vierge Marie, sa mère, s'étant jetée à ses genoux, le suppliait de pardonner, etc. Bon, donc, le récit que je vous ai un peu résumé. Alors la Mère de Dieu présenta le bienheureux Dominique à notre Seigneur Jésus-Christ. « Je l'accepte, dit celui-ci. Il fera très bien et avec zèle tout ce que vous avez dit. » Elle lui présenta ensuite le bienheureux François et le Sauveur l'approuva également. Or, le bienheureux Dominique, considérant attentivement dans cette vision ce compagnon qu'il ne connaissait pas encore, le rencontra le lendemain dans une église, le Latran, et le reconnut d'après ce qu'il avait vu pendant la nuit. Il se jeta dans ses bras, et le tenant sur son cœur, il l'embrassait avec une sainte effusion, en disant « Tu es mon frère d'armes, tu marcheras avec moi du même pas, et aucun ennemi ne prévaudra contre nous. » Il lui raconta ensuite sa vision, et dès lors, ils n'eurent plus qu'un cœur et qu'une âme en Dieu, et ils recommandèrent à leur fils qu'il en fût de même entre eux toujours, en tout amour et révérence. Peut-être le moment où il y avait une petite concurrence, 1260, entre nos deux ordres. Toujours est-il que c'est une vision, c'est quelque chose qui est un style connu, littérairement connu, géographique, mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons les deux faces, dominicaine et franciscaine. Alors, je les ai classés, ces trois rencontres, hein, de façon un peu aléatoire. Et M. Dallarin, dans la préface du Totum, dit très bien, on doit choisir. Est-ce qu'on choisit l'ordre chronologique ou est-ce qu'on choisit l'ordre typologique? Alors, dans le Totum, il y a un peu les deux, hein, il y a un peu les deux, mais c'est plutôt par genre. Et donc, je le fais plutôt d'après une sorte de chronologie extrêmement pas très attestée. Hein. Rien, il n'y a pas de date. Mais enfin, la deuxième rencontre, enfin s'il y a une date, il y a une date probable pour la deuxième rencontre, c'est la rencontre de saint Dominique et de saint François au chapitre franciscain. Très important. Si les conjectures des historiens sont justes, ça serait le chapitre du 3 juin 1218, la Pentecôte. donc à Assise, Sainte Marie des Anges. C'est quelque chose qui a des éléments dans la tradition dominicaine aussi, mais qui est particulièrement important pour les conséquences que on a pu en tirer. Je vais m'expliquer. Alors là, c'est 2804, très impressionnant. Et de jusqu'à 2808. Ce sont les actes du bienheureux François, l'Actus, avec la version de langue vernaculaire de Fioretti. Donc, c'est quand même tardif, c'est quand même très orienté, d'autant plus que nous sommes quand même dans le contexte de la querelle de la pauvreté, pauvreté mendiante, et donc rien, le sujet n'est pas neutre. Hein, le sujet n'est pas neutre. Et comme par hasard, ce qui va être l'objet de la rencontre, en quelque sorte, c'est la pauvreté mendiante. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de ce chapitre. Au cours d'un chapitre général que le très fidèle serviteur du Christ François célébra dans la plaine de Sainte-Marie des Anges, se rassemblèrent plus de 5000 frères. Il y avait aussi Saint Dominique, chef de l'ordre des prêcheurs, avec 7 frères de son ordre. Il y avait en outre le seigneur cardinal d'Ostie, etc. Alors, ensuite, donc il discute et il parle de la pauvreté totale et parfaite. Saint François. Comme Saint Dominique voyait tout cela et qu'il y reconnaissait vraiment la providence divine, s'accusant humblement du jugement de manque de discernement qu'il avait fait, s'agenouillant devant le bienheureux François, il avoua humblement sa faute. Alors sa faute, c'est de ne pas, ça serait, de ne pas avoir reconnu l'excellence de la pauvreté totale. Ou plus exactement, nuançons déjà, de l'interdiction d'avoir des revenus. Hein? Vraiment, Dieu a soin de ces petits pauvres, aurait dit Saint Dominique, et moi, je l'ignorais. Aussi, à partir de maintenant, je promets d'observer la sainte pauvreté évangélique et je maudis de la part de Dieu tous les frères de mon ordre qui auront la présomption d'avoir quelque chose en propre dans cet ordre. Saint Dominique fut donc fort édifié par la foi de Saint François et par l'obéissance et la pauvreté d'un collège si bien organisé et si grand, ainsi que par la providence divine et l'abondance très copieuse de toutes choses. Car en homme, vraiment saint et sage, il reconnut en toutes les paroles de celui-ci le Dieu très fidèle, qui comme le champ fait croître les jeunes pousses et les lys, et comme il nourrit les volatiles du ciel, fournit ainsi à ses pauvres dévots tout le nécessaire. Alors, ça va assez loin, hein ? Ça va assez loin. Ça voudrait dire que, pourquoi pas ? Et le père vicaire était mort. Prédécesseur à Fribourg, qui est le grand auteur de la vie de Saint-Dominique, à la fin de sa vie, s'est rallié à cette thèse, c'est que Saint-Dominique a été inspiré par Saint-François et par le chapitre, qui n'est pas le célèbre chapitre des Nattes, comme le pense le texte de l'Actus, mais qui serait le chapitre de 1218, mais qui ferait que Saint-Dominique se serait rallié à la pauvreté totale, renonciation à tous les biens, à partir du spectacle et édifié par Saint-François lui-même. Bien. Alors, le problème, c'est que, plusieurs problèmes, mais peut-être il y a quelque chose à en tirer. Premier problème, c'est que, évidemment, comme je l'ai dit, tout ça a été rédigé au moment de la grande querelle dans l'Église de la pauvreté mendiante, avec les spirituels franciscains, pour lesquels le testament de saint François, vous savez ici mieux que moi, est intangible, total, absolu, et que saint Bonaventure est obligé de reprendre un peu les choses. Bien. Ensuite, ce que nous savons, et que le Totum dit parfaitement, c'est que ceci est quelque chose qui vient du témoignage de Pierre de Jean Olivier, tel que le texte scientifique l'appelle, je crois qu'on disait Pierre de Jean Olieu, c'est la même chose, hein, que vous trouvez à la page 2557, donc voilà, ce qui est intéressant c'est de croiser quand même les sources, qui est quand même un des grands partisans des franciscains spirituels. Bon, très bien. Alors, du côté dominicain, ça ne colle pas tout à fait non plus, parce que c'est en 1218, on voit que saint Dominique accepte encore des propriétés avec des revenus en Espagne. Donc il n'a pas mis en acte tout de suite sa bonne résolution telle que les franciscains veulent bien le reconnaître. Alors, pour être plus clair, ce qui est vrai, c'est qu'il y a dans la perception, dans la conception que saint Dominique a eue de la pauvreté, des étapes. Ça, c'est manifeste. Nous le savons, par les bulles, par les privilèges, et qui peuvent être comparés entre 1215, fondation de l'ordre dominicain, et sa mort, 1221, disons, jusqu'en 1220. Et que la pauvreté dominicaine a été de plus en plus exigeante. À la différence près que à aucun moment, les Dominicains, saint Dominique, a pensé que ses frères ne devaient rien posséder. Ça, jamais, ça n'a été dit par saint Dominique, et il a toujours été entendu que les Dominicains, ben, disons les premiers Dominicains, possédaient leur couvent. La question, et c'est important parce que c'est toute une conception sociale quand même qui est par derrière, c'est d'accepter que ces propriétés aient des revenus. C'est le problème du revenu. Hein. Et on voit bien que on cherche au XIIIe siècle cette voie chrétienne. Est-ce que la pauvreté évangélique permet d'avoir des revenus? Donc, Saint-François, manifestement, avec le testament, va dans une radicalité absolue, qui n'est pas celle de Saint-Dominique et des premiers frères de prêcheurs, mais rien n'exclut du tout, en effet, que l'exemple des premiers franciscains, des premiers frères de Saint-François, ait été un choc réel, une considération nouvelle pour Saint-Dominique. On n'a pas du tout à l'exclure, même si les sources dominicaines font un peu défaut. Troisième et dernière rencontre, qui là, les textes sont plus à la fois plus précis, plus convergents, peut-être plus vraisemblables. Hein, je m'engage un peu, mais c'est la rencontre chez le cardinal Ugolin, le futur Grégoire IX, grand ami et de saint Dominique et de saint François et de tout ce qui est très très vivant dans les pontificats d'Innocent III et d'Honorius III. Cardinal, évêque d'Ostie, qui a comme pape canonisé et l'un et l'autre. Alors là, nous avons cette rencontre qui est très bien racontée par Thomas de Chelano. Dans Le Mémorial, c'est le chapitre 109, et dont je vais vous lire quelques extraits, mais qui est quelque chose qu'on trouve beaucoup quand même. Enfin, l'amitié avec Ugolin est très 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 présente dans les premiers textes dominicains. Et donc là, il y a une sorte de vraisemblance de cette rencontre qui se situerait donc entre 1218 et 1221. À Rome, avec le seigneur d'Ostie, qui fut par la suite souverain pontife, se trouvaient ces deux clercs luminaires du monde, saint Dominique et saint François. Comme ils proféraient tour à tour sur le seigneur des propos doux comme miel, à la fin, l'évêque leur dit, dans l'église primitive, les pasteurs de l'église étaient pauvres, c'étaient des hommes qui brûlaient de charité, non de cupidité. Pourquoi, dit-il, ne faisons-nous pas de vos frères des évêques et des prélats qui l'emportent sur tous les autres par l'enseignement et par l'exemple? Et c'est très bien raconté. Il se produit entre les saints un débat. Ils se concertent pour faire la réponse. Ils ne s'arrachaient pas la parole, mais se l'offraient. Bien plus, ils se forçaient mutuellement à répondre. De fait, chacun devançait l'autre, puisque chacun était dévoué à l'autre. À la fin, l'humilité l'emporta sur François. De sorte qu'il ne se mit pas en avant, elle l'emporta aussi sur saint Dominique. En ce qui, en répondant le premier, il obéit humblement. Répondons donc le bienheureux Dominique, dit à l'évêque. Seigneur, mes frères ont été élevés à un bon degré. S'ils le reconnaissent, c'est tout mon pouvoir. Et de tout mon pouvoir, je ne permettrai pas qu'ils atteignent une autre sorte de dignité. Donc, ils ne deviendront pas des évêques. Il achève ainsi son discours, et le bienheureux François, s'inclinant devant l'évêque, dit « Seigneur, mes frères ont été appelés mineurs, pour qu'ils n'aient pas la présomption de se faire plus grands. Leur vocation instruit à demeurer au niveau du sol et à suivre les traces de l'humilité du Christ, au point que finalement, si l'on regarde les saints, ils sont plus exaltés que les autres. Si vous voulez, dit-il, qu'ils portent du fruit dans l'Église de Dieu, maintenez-les et conservez-les dans l'état de leur vocation, et ramenez-les, même contre leur gré, au niveau du sol. Je vous en prie donc, Père, pour qu'ils ne soient pas d'autant plus orgueilleux qu'ils sont plus pauvres, très bien vu, qu'ils ne soient pas d'autant plus orgueilleux qu'ils sont plus pauvres, et ne deviennent plus insolents, qu'ils sont plus pauvres et qu'envers tous les autres ne leur permettez à aucun prix de s'élever à la prélature. Telle fut la réponse des bienheureux. Que dites-vous, fils des saints? La jalousie et l'envie trouvent que vous avez dégénéré et l'ambition des honneurs ne prouve pas moins que vous êtes illégitime. Alors ça continue comme ça, c'est une sorte de méditation sur l'humilité. Puis le chapitre suivant dit ceci. Une fois achevé, les réponses des serviteurs de Dieu, le seigneur d'Ostie, grandement édifié des propos de l'un et de l'autre, rendit à Dieu d'immenses grâces. Comme chacun prenait de là le départ, le bienheureux Dominique demanda à saint François qu'il daigne lui accorder la corde qu'il portait comme ceinture. Donc ça, c'est un nouvel élément, un nouveau symbole. Saint François fut lent à le faire, refusant par une humilité identique à la charité avec laquelle l'autre l'en priait. Cependant, l'heureuse dévotion du demandeur, saint Dominique, l'emporta, et avec la plus grande dévotion, il ceignit sous sa tunique de dessous la corde qui lui était concédée. À la fin, les mains se joignent aux mains, et les plus douces recommandations sont faites de part et d'autre. Le saint dit au saint, « Je voudrais, frère François, qu'il n'y ait qu'une religion de la tienne et de la mienne, et que nous vivions en l'Église sous une même forme. » Quand enfin ils se séparèrent l'un de l'autre, saint Dominique dit à plusieurs qui étaient alors présents, « En vérité, je vous le dis, toutes les autres religieux devraient suivre ce saint homme François, tant est grande la perfection de sa sainteté. » Donc, attestation de la sainteté de saint François par saint Dominique. Ceci, disons l'épisode, quels que soient les détails, peut-être enjolivés, mais d'ailleurs fort beaux, hein, donc on va recevoir comme dans leur beauté, reviennent à quand même quelque chose qui est très ancien, puisque nous trouvons l'épisode plus ou moins raconté de la même manière dans les souvenirs de frère Léon. Donc, vraiment, tout au début que vous trouvez dans la compilation d'Assises au chapitre 49. Donc, deux points de cet épisode qui ne sont pas... Il y en a un très édifiant qui est le second, rivalité dans l'expression de la charité de l'humilité, édification, mais le point assez déterminant, c'est quand même que les ordres mendiants, disons les prêcheurs et les mineurs, ne doivent pas accepter de charge épiscopale. Qui va être un des grands débats, comme vous savez, dans tout le développement de nos ordres, sachant que, bon, ça, la question ne se pose pas pour Saint-François, que Saint-Dominique avait refusé plusieurs évêchés dans le midi de la France. En particulier, l'évêché qui n'existe plus de Couserans. Et quand Monseigneur de Montléon, on est pratiquement de la même année, donc quand Monseigneur de Montléon a été choisi comme évêque de Pamiers, j'ai vu qu'il était évêque de Pamiers, de ceci, ceci et de Couserans. Et je lui ai écrit, félicitations, je trouve que c'est très très bien pour l'Église. En historien, je te rappelle simplement que Saint-Dominique avait refusé l'évêché. Alors il ne m'a pas répondu sur ce point. Non, je plaisante. Mais c'est quand même un peu abusant, malgré tout. Bien. Alors, trois grandes rencontres dont l'historien sur lesquelles il peut se poser des questions, mais qui, manifestement, d'abord, ont un fondement, dans les souvenirs des frères, et ensuite aussi ont une signification au moment où ils sont écrits. Soit pour la conception de la pauvreté mendiante, soit sur le problème de l'épiscopat, soit sur peut-être, une rivalité entre les deux ordres mendiants. Fraternité n'empêche pas quelques rivalités parfois, et donc ces épisodes sont là pour rappeler cette amitié des deux fondateurs et la nécessité que ces ordres s'entendent. Dernier texte qui est d'autant plus intéressant que c'est plus vraiment Saint-François et Saint-Dominique, mais c'est un franciscain et un dominicain. C'est le 1592, rapidement. C'est Saint-François. C'est Saint-François quand même. Saint-François et un dominicain. Comme il séjournait à Sienne, il advint qu'un frère de l'ordre des prêcheurs arriva là. C'était un homme spirituel et docteur en théologie sacrée. Il rendit donc visite, c'est Thomas Celano, hein, il rendit donc visite au bienheureux François. Lui-même et le saint jouissent de longtemps du plus doux entretien sur les paroles du Seigneur. Alors, il y a un texte d'Ézéchiel qui pose difficulté. Si tu n'annonces pas à l'impie son impiété, je réclamerai son âme de ta main. Il lui dit en effet, bon père, donc le dominicain à Saint-François, j'en connais un grand nombre que je sais être dans le péché mortel, sans que je leur annonce toujours leur impiété. Est-ce qu'on réclamera de ma main l'âme de telle personne? Comme le bienheureux François se disait être illettré, et affirmait que pour cette raison c'est lui qui devait être instruit par l'autre, plutôt que de répondre à sa question sur une phrase de l'Écriture, cet humble maître ajouta, « Frère, bien que j'ai entendu le commentaire de cette parole par quelques sages, cependant j'aimerais recevoir ton interprétation de ce passage. » Le bienheureux François lui dit, « Si la parole doit être comprise en général, je la reçois de la façon suivante. le serviteur de Dieu doit être si ardent en lui-même, par sa vie et sa sainteté, que par la lumière de son exemple et la langue de son comportement, il fasse reproche à tous les impies. Cet homme, prêcheur, fut donc édifié au plus haut point, et en se retirant, il dit aux compagnons du bienheureux François, « Mes frères, la théologie de cet homme, appuyée sur la pureté et la contemplation, est un aigle qui vole, quant à notre science, elle rampe avec son ventre sur la terre. » Donc, le docteur qui s'incline devant la sainteté de frère François sur le prophète Ézéchiel. Alors, il y a un certain nombre de parallèles dont je ne vais pas peut-être simplement signaler. Il y a d'autres parallèles où saint François et saint Dominique sont mis en évidence dans la spécificité de leur sainteté. Vous avez la chronique de Normandie qui est assez intéressante, qui parle de la nouveauté du genre de vie des deux ordres et qui rend hommage à saint François comme à saint Dominique. Alors pour conclure, et parce que ça fait partie à mon avis du genre littéraire qui est celui de la comparaison entre saint François et saint Dominique, je vais m'y risquer à mon tour. Deux hommes, on ne peut plus différents. Deux milieux très très étrangers l'un à l'autre. Le milieu de saint François, c'est, comme vous le savez bien, celui de l'Italie, des communes qui commencent leur essor, et c'est donc un milieu urbain autant qu'on peut le dire pour le XIIIe siècle, mais où on voit apparaître dans la société occidentale une société marchande, commerçante, disons bourgeoise. Hein? Et je crois que l'espèce de réaction que saint François a, c'est vis-à-vis de cette société représentée par son père, qui est une société qui commence à connaître une certaine prospérité. Prospérité marchande, une prospérité du commerce, prospérité de l'artisanat et de l'achat et de la vente. Bien. Saint-Dominique, c'est l'ancien monde par rapport à ce nouveau monde. Saint-Dominique, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne, Caleruega, la vieille Castille. Si vous y allez, c'est un désert, hein, c'est vraiment encore maintenant d'une austérité de paysage extraordinaire, quand on compare habituellement avec l'Ombrie, c'est le jour et la nuit. Donc, un milieu rural, et on pourrait dire une société véritablement féodale. Saint-Dominique est l'expression de cette société féodale, avec son sens très développé du service dans militaire même, hein, c'est-à-dire l'arrière-fond, c'est quand même bien la Reconquista contre l'islam, c'est une société qui est sur le qui-vive, hein, par rapport à l'islam, une société pauvre, même dans l'aristocratie, une vie très austère, une vie très sobre, et les premiers textes qui parlent de la jeunesse de Saint-Dominique, c'est véritablement ponctué de famines. Hein. Il se penche sur des famines récurrentes de l'Espagne de son temps. Donc, deux milieux sociaux, deux paysages, deux sociétés très très différentes, qui forment la base de l'Europe du XIIIe siècle. Saint François, c'est évidemment une spiritualité laïque d'abord. C'est un laïc et c'est quelqu'un qui habite son pays, c'est-à-dire sauf l'épisode du sultan, au fond, il reste pratiquement tout le temps en Italie. Mais l'Europe est déjà présente, puisque les premiers frères vont, très nombreux, vont être dispersés un peu partout en Europe. La spiritualité, la formation, la manière de sentir les choses de saint Dominique est manifestement cléricale. C'est un clerc qui a toujours vécu dans ce milieu clérical, au sens même où, par son éducation, il a été envoyé à Silos d'abord, et chez les chanoines, il rentre chez les chanoines d'Osma, il est pris dans cette réalité cléricale des petites villes de l'Espagne de son temps. Mais, et peut-être il n'y a pas de lien, mais c'est un grand voyageur. Et l'aventure de Saint-Dominique et l'aventure de son ordre, ça se fait à travers des voyages dans l'Europe. Il va jusqu'en Scandinavie, et c'est par la Scandinavie et par la Prusse qu'il s'aperçoit aussi des besoins de la prédication. Aussi, autre différence fondamentale, mais contre quoi, et qui est, d'une certaine manière, très paradoxale, presque contradictoire avec ce que je viens de dire, c'est que saint François a laissé des écrits, la poésie. Il est le fondateur, en réalité, même de cette littérature italienne. Des choses magnifiques, d'un lyrisme extraordinaire qui a traversé les siècles. Nous n'avons pas d'écrit de Saint-Dominique. Alors, je sais bien qu'il y a une lettre assez belle, plutôt courte, au Monial de Madrid, qui est un texte intéressant. Mais enfin, qui n'est pas un texte d'une élévation, enfin, je veux dire, c'est pas un grand classique des spirituels catholiques. Je nuancerai cette chose qui explique beaucoup, en fait, quand même, du caractère un peu de Saint-Dominique, c'est que les constitutions primitives, où il y a des passages splendides sur ce que doivent faire les frères, à mon avis, est de la pensée, sinon de la plume de Saint-Dominique. Mais il s'est effacé derrière ses frères qui ont ratifié ces textes en chapitre. Donc c'est devenu un texte capitulaire et ça n'est plus on ne retrouve plus la marque Saint-Dominique. Mais j'en suis persuadé. Mais malgré tout, alors est-ce que c'est là, je ne crois pas quand même que tous ces manuscrits ont été gardés d'un côté, perdus de l'autre. Donc je crois que c'est deux manières d'aborder un peu l'écrit. Hein. Ensuite, je dirais que chez saint François, vous avez quelque chose aussi qui n'existe pas chez saint Dominique, qui est précisément l'amour de la création. Alors je ne dis pas que saint Dominique ne l'avait pas, mais nous ne le trouvons pas dans les témoignages qu'on a. On a beaucoup de témoignages, hein. Beaucoup de récits de Saint-Dominique pour la canonisation et puis de façon plus large, mais nous n'avons pas cette proximité avec la nature, la création, les animaux, etc. Mais, quelque chose que Saint-François n'avait pas, et qui est très très présent dans la personnalité de Saint-Dominique, c'est le sens juridique, le sens du droit. Hein? Et vraiment, je crois que Saint-Dominique est un véritable fondateur d'un ordre, d'une institution, avec des constitutions que d'ailleurs les ordres mendiants ont reconnues comme assez bonnes pour pouvoir. Je ne sais pas si on leur a imposé ou s'ils l'ont choisi, mettons qu'ils l'ont choisi. Et donc, il y a le chef-d'œuvre de Saint-Dominique, ce sont les constitutions des prêcheurs qui sont un remarquable équilibre. De pouvoir et de démocratie et d'autorité. Enfin, peut-être plus spirituellement, tous les deux nous trouvons l'aspect pénitentiel. de la pauvreté, aspect pénitentiel de la pauvreté. Nous trouvons la même amour de l'Église en dénonçant les déviations, hein. Mais quand même, et je terminerai par là, nous avons deux manières d'être dans l'Église au même moment. Et se reconnaissant, c'est ça que je crois qui est très beau, se reconnaissant, s'embrassant, s'unissant. La vie de saint François est une vie heurtée. Il y a des passages, il y a des dépressions, il y a des moments très difficiles, il y a des trahisons. Pas chez saint Dominique. Chez saint Dominique, il y a une vie que j'appellerais quasi linéaire, malgré tout. Bon, il y a des grandes décisions, mais elle est linéaire. Il n'y a pas de grandes crises. La radicalité de saint François n'est pas celle de saint Dominique. Saint Dominique, c'est de l'ordre de l'exigence avec toujours le souci de la modération, de la prudence. Et ces hésitations même, deuxième rencontre sur la pauvreté, témoignent de cette approximation successive qu'il a faite d'un mode de vie pour ses frères. Bref, je crois qu'il faut rendre grâce au Seigneur qu'au même moment, il y ait saint François, que j'appellerais toute sensibilité intelligente, et de saint Dominique, dont je dirais qu'il est toute intelligence sensible. Merci.
Vous avez choisi paix, est-ce que ça marche ?
Oui, je crois.
Voilà. Vous avez choisi paix un thème essentiel, celui de la rencontre qui traverse d'abord les Saintes Écritures et toute la tradition de l'Église, y compris la tradition de la vie religieuse. Et on pourrait se demander ce que pourraient être nos fondateurs sans ces rencontres. Que serait saint François sans la rencontre du lépreux, de l'évêque, du sultan et de saint Dominique. Et ces rencontres sont en fait source de fécondité, de maturité, de maturation. On pourrait se poser la question de se dire que serait saint François sans ses rencontres avec saint François et avec saint Dominique et l'ordre dominicain. Et ces rencontres, même si elles ont eu des moments de friction, d'incompréhension même, elles sont toujours fécondes parce qu'elles permettent à chacun de retrouver sa place dans l'Église, son identité dans l'Église, tout en se stimulant comme deux grands champions à être fidèles à l'Évangile qui les a séduits. Et ces rencontres continuent. Elle est sur cette table avec le totum que nous avons sous les yeux. C'est aussi le fruit d'une rencontre, celui des éditions du Cerf et des éditions franciscaines. Vous parliez d'un chef-d'œuvre. Est-ce que ce livre aurait pu être là sans cette bonne volonté réciproque des uns et des autres? Et cette fécondité continue, la preuve c'est votre présence qui souligne l'importance de ces rencontres. Je regrette donc que les pères de Fribourg ne vous aient pas invités plus souvent. Merci d'être venus nombreux ce soir pour cette rencontre, cette conférence qui nous a passionnés. Je vais m'arrêter là, puis je vais laisser le micro pour les questions. Juste, puisque j'ai le micro, je ne vais pas le reprendre une deuxième fois. Cet après-midi, nous étions à la bibliothèque pour programmer l'année qui vient. Nous avons donc quelques projets à quelques invitations à vous faire. Elles ne sont pas encore tout à fait prêtes pour qu'elles soient éditées. Mais déjà, vous pouvez retenir la date du 9 décembre. Nous aurons la joie d'accueillir le professeur Gérard Scholfi,
Il était hier soir à Angers.
Est-ce que ça sera
sur le Capucin du Bourdiret, sur le père Marie-Benoît.
Je ne sais pas si le livre sera déjà édité ou pas, mais c'est toujours en collaboration avec le CERF, vous voyez, la rencontre continue. Donc ce sera sur le père Marie-Benoît, un père que plusieurs d'entre nous avons connu ici, et qui a été un juste des nations, un père des Juifs. Il a sauvé des milliers de Juifs pendant la guerre. Et je pense que cet ouvrage du professeur Scholfi sera déterminant pour connaître non seulement son œuvre, mais tout ce que l'Église a entrepris dans ces époques noires, difficiles de l'histoire, en faveur ou en lien par sympathie et empathie pour le peuple juif. Donc, retenez cette date du 9 décembre avec le professeur Scholfi. Puis, nous vous tiendrons au courant de la suite de nos propositions. Vous avez bien fait de me dire qu'il y avait des questions, je les avais oubliées. C'est le moment de vous passer le micro éventuellement, si l'un ou l'autre veut bien. Est-ce qu'il y a des questions? Bien sûr, il y en aura certainement, oui.
Je voulais vous poser une question. Pour Saint-Dominique, au départ de la fondation de l'ordre, il y a Fouilly et tous les monastères et des femmes. Quelle est dans la vie franciscienne? Il y a Claire, mais c'est autre chose. Enfin,
je ne sais pas si c'est autre chose. Alors, évidemment, il y a quelque chose d'assez important. Chronologiquement, c'est que, nous le savons bien, les dominicaines ont été fondées avant les dominicains. Hein, ça, c'est quand même assez rare. C'est donc quand Saint-Dominique est à Prouille et à Fanjeaux, donc dans le midi de la France, il réunit quelques femmes, c'est assez mystérieux leur origine, est-ce qu'elles étaient... L'interprétation générale, c'est que elles étaient des femmes pauvres, enfin de la noblesse, mais pauvres, qui étaient forcées d'être finalement reçues par des dames cathares, donc qui étaient trop en danger un peu par rapport à cette doctrine cathare. Et donc, au moment où Saint-Dominique fait l'évangélisation, tout seul, oui, avec son évêque, il les retire un peu de ses familles et les réunit. Il n'y a pas trop de manière à l'époque de vivre de cette manière. C'est donc un monastère et il leur donne une prière et c'est donc le petit noyau des dominicaines qui commence avant la formation des frères. Donc c'est quelque chose dont les moniales dominicaines sont extrêmement fières. Elles ont raison, et c'est en effet quelque chose d'assez étonnant. Hein, voilà. Donc, évidemment, il y a cette question de chronologie par rapport à Sainte-Claire, et ce n'est pas, vous avez raison, au sens où ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Hein. Nous savons les noms des premières dominicaines, mais il n'y en a aucune qui apparaisse comme la fondatrice, hein, pas du tout. Alors, il y a ensuite une amitié très très belle qui commence à Bologne avec une très jeune femme de la noblesse, de la bourgeoisie de Bologne, qui veut absolument entrer au monastère.